Merci d'être à l'écoute en ce dimanche 2 août 2020. C'est notre dernière heure, elle est bien remplie, mais je me tourne tout de suite vers M. Yannick Bouchard
oui,
au sport,
Paul.
Parce qu'il y a une épreuve en cours.
Tout à fait, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. Lewis Hamilton est toujours au premier rang. Il partait premier, n'est pas inquiété depuis le début de cette course. 28 tours de complétés sur 52. Valtteri Bottas est deuxième, Verstappen troisième, Charles Leclerc quatrième et Lance Stroll qui s'est lancé sixième, lui, a perdu deux places lors du départ, s'est retrouvé huitième. Là, pour le moment, il se retrouve en neuvième position et son coéquipier chez Racing Point, Nico Hülkenberg, a eu des problèmes avec son moteur au départ, n'a même pas pris le départ de cette épreuve. Alors voilà le tableau du Grand Prix de Grande-Bretagne pour l'instant.
Et ça, c'est son nouveau coéquipier, évidemment, qui remplace Sergio Pérez, qui, lui, est en quarantaine.
Oui, en quarantaine.
En quatorzaine.
En quatorzaine, en raison de la COVID-19. Il y a une deuxième épreuve en Grande-Bretagne, donc la semaine prochaine également. Hülkenberg sera le coéquipier donc de Lance Stroll. Et je vais apporter une précision également sur le hockey. Le Canadien a gagné hier 3-2 dans la ronde de qualification. Il y en a plusieurs qui se demandent, est-ce que ces statistiques-là, hier amassées par les joueurs du Canadien, comptent pour les séries éliminatoires? Eh bien, oui.
Ah.
Alors, Nick Suzuki a marqué son premier but en carrière en séries éliminatoires.
Jesperi
Kotkaniemi également. Alors voilà, oui, les statistiques des matchs de la ronde de qualification seront comptabilisées pour les statistiques en carrière en séries éliminatoires.
Alors, Kotka et Suzuki vont s'en rappeler à leur premier match.
Certainement.
Deux séries éliminatoires, ils ont déjà un but chacun.
Voilà, tout à fait. Alors, deuxième match sera présenté demain du côté de Toronto, toujours contre ces mêmes pingouins de Pittsburgh. On va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard avec Martin McGuire, qui a repris là où il avait laissé au mois de mars, mon cher Paul et Thérèse.
Je comprends. D'ailleurs, nous allons vous faire réentendre à ce moment-là,
pourquoi pas,
en conversation avec Martin, c'est mes meilleurs moments de la soirée. hier, on vous parlait, et on a eu un petit échange là-dessus dans notre équipe, de ce gagnant, de cette gagnante en Ontario, d'un gros lot de 70 millions de dollars lors du tirage de vendredi au Lotomax. Yannick n'avait pas acheté de billet, je crois.
Non.
Bon.
Non,
Thérèse non plus?
Non plus.
Alors, ils étaient parmi les gagnants. Ils ont évité de dépenser. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, pas encore en Ontario ». Et là, François Gagnon, qui a participé à la conversation, nous avait dit « Attention, l'Auto-Québec avait dit l'année passée qu'on avait eu un nombre record de gagnants au Québec ». Des lots, des gros lots du Lotomax. Alors, évidemment, vendredi soir, il y a eu un gagnant au Québec de ce qu'on appelle un max-million, là, donc un nouveau millionnaire. Et ce que je voulais vous dire, c'est que cette anecdote, je la trouve savoureuse. Il y a un homme de la Caroline du Nord qui, lui, a trouvé une formule pour être à peu près sûr de gagner. Alors, il s'appelle Kevin Clark et il a fini par gagner. Savez-vous avec quoi? Avec des gratteux. Et oui, des gratteux. Et il y avait un gros lot de 5 millions de dollars qui n'avait pas été gagné dans les gratteux. Et lui, il habite la Caroline du Nord et il a eu comme une intuition en disant « Je suis certain que le billet gratteux se trouve dans la portion ouest de l'État de la Caroline du Nord. » Je suis convaincu. Alors, savez-vous ce qu'il a fait? Il a rassemblé tout ce qu'il avait d'économie. Et il a acheté au coût de 20 $ l'unité, 20 $ le gratteux, des billets dans 40 commerces de l'État de la Caroline du Nord, mais dans l'Ouest, en se disant, je les ramasse tous. Exemple, il arrêtait dans un dépanneur de l'Ouest de la Caroline du Nord, il dit, donnez-moi tous vos gratteux. Et là, évidemment, il payait quand même 20 $ l'unité.
Wow.
Là, il allait à un autre endroit, un centre commercial, il rentre, il y a un dépositaire de la loterie. Il dit, donnez-moi tous vos gratteux, tout ça. Ben, il a fini par gagner. Il a fini par gagner et il est rentré à la maison après avoir fait le bilan de l'opération. Il lui reste 2 millions de dollars en poche.
C'est-tu un médium?
C'est ça.
C'est pas un médium. Il a décidé de passer tout ce qui restait de gratteux et il a fini par gagner.
Okay. Ben, écoute, je vais essayer ça.
Est-ce que ça va vous inspirer?
Je vais essayer ça. Je vais essayer de réfléchir, là.
C'est comme si je me disais, moi, ce matin, là, j'ai l'intuition que la semaine prochaine, le billet gagnant va être tiré au Mont-Tremblant, exemple. Alors, je fais tous les dépanneurs du Mont-Tremblant.
Ouais.
et j'achète.
Mais ça, c'est plus compliqué, là, ce que tu viens de dire, Yannick, parce que le principe de la loterie du Lotomax, c'est qu'il faut avoir 7 chiffres dans une combinaison. Non,
C'est vrai, c'est vrai.
Alors que lui était convaincu que le gratteux en question qui existait était en quelque part dans l'ouest de l'État. Alors, il dit, je vais ratisser l'État.
Alors, Yannick, opte pour des gratteux.
Oui, c'est ça. Faut que je me trouve un gratteux payant, finalement.
Je pense que Yannick...
T'as une chance sur 1 million.
On va te faire la tournée des gratteux pour la semaine prochaine.
OK, OK.
Tu t'arrangeras avec la direction ici pour te faire avancer l'argent.
C'est ça, exactement. Je vais en parler à madame aussi. Évidemment.
Alors, Yannick, demeure avec nous parce que notre prochaine invitée, évidemment, est liée au monde du sport. Et on a bien hâte de voir son documentaire « Les intouchables ». Pourquoi? Parce que c'est dans les coulisses du sport, mais surtout tenter de percer un univers très hermétique. Vous savez, ces sujets tabous qu'on ne veut pas aborder, l'homosexualité, la drogue, la perversion de l'argent, le comportement des athlètes envers les femmes et la place des femmes dans le monde du sport. Eh bien, Marie-Claude Savard, que vous connaissez très bien, va nous présenter, ce sera présenté à la télévision de Radio-Canada à partir du jeudi 13 août, dans 11 jours exactement, à partir de 20h, une série de 4 épisodes consacrés à ces thèmes, tabous et secrets. Marie-Claude Savard, bonjour.
Allô.
Bonjour Marie-Claude.
Allô.
Hey Marie-Claude, quand même, tu t'attaques à une, j'allais dire, quelque chose de gros, parce que le hockey, c'est très conservateur, très traditionnel, assez hermétique. Et là, évidemment, toi, tu arrives là-dedans avec 4 épisodes qui parlent de sujets, disons-le, encore tabous. Comment t'as décidé ça, d'arriver avec ça?
Ben, ça faisait longtemps que j'ai passé une quinzaine d'années dans l'univers du sport à faire la couverture, puis à être témoin de certaines choses, puis à me poser certaines questions. Moi, je suis rentrée un peu par la porte d'en arrière dans cet univers-là. Je suis pas une ancienne athlète. J'étais pas prédestinée à faire une carrière en sport nécessairement. Donc, j'ai découvert moi-même une culture que je connaissais peu. Je m'y suis habituée. Je me suis fait des contacts. J'ai aimé travailler dans ce milieu-là. Mm-hmm. Et quand j'ai quitté, il m'est resté certaines interrogations ou certains terrains que j'avais pas pu explorer parce que être journaliste de sport, c'est d'être très occupé dans la vie parce que Dieu sait que ça roule dans le sport professionnel. Vous parliez de la course automobile tantôt. Ouais. Tous les jours, il y a plein de matchs, il y a plein d'événements à couvrir. Donc, on n'a pas nécessairement le luxe d'avoir un recul et de faire un petit peu d'enquête. On est occupé. Donc, plusieurs années après avoir quitté le sport, moi, j'avais peut-être la liberté ou les coups des franches pour explorer certains sujets, mais en même temps, j'avais plus d'accès. Et donc, je me suis lancée dans cette aventure-là qui a pris 2 bonnes années de travail parce qu'il y a de la méfiance peut-être des fois, parfois, entre les médias et le sport professionnel, surtout quand on n'est pas à la couverture des événements, mais qu'on veut peut-être poser d'autres questions qui sont pas habituelles. Donc, c'était une quête personnelle, puis en même temps, un goût journalistique d'aller explorer ça.
Est-ce qu'on t'a regardé avec des gros yeux quand t'es arrivée avec ce projet-là, Marie-Claude?
Oui, beaucoup. Ben, même moi, je me regardais moi-même avec des gros yeux parce que je pouvais pas garantir le résultat. T'sais, moi, je me présentais devant une équipe de production, après ça, devant des diffuseurs qui devaient acheter cette idée-là de faire ça, sachant que ça allait déranger. Puis le sport professionnel, c'est des bons partenaires d'affaires pour les diffuseurs aussi. On veut pas trop déranger ça parce que, tu sais, il y a comme une entente. Le sport, quelque part, n'a pas nécessairement intérêt à montrer les coulisses. Puis peut-être qu'on veut pas les voir non plus parce qu'on aime ça juste être diverti puis prendre le sport pour ce que c'est. Donc, il y avait comme une espèce de contradiction dans la démarche qui a fait qu'il y a certains diffuseurs qui se sont dit « bon, on ne s'embarquera pas là-dedans, même si on juge que le contenu pourrait être intéressant ». Et finalement, Radio-Canada dit « bon, ben parfait, nous, on embarque, on y va, carte blanche », évidemment avec un bon contentieux d'avocats qui regardait tout ça, puis beaucoup de méfiance de l'autre côté aussi. Puis des entrevues qui n'ont pas toujours été simples, non seulement à booker, mais aussi à réaliser. Là.
Sur quel thème? Parce que j'ai présenté quelques sujets encore tabous, j'insiste là-dessus, parce que moi aussi, Yannick aussi, a côtoyé le monde du sport. Mmh. On a parlé de l'homosexualité, la drogue dans les vestiaires, la perversion de l'argent et le comportement de plusieurs athlètes masculins envers les femmes, mais aussi la place des femmes. Quelle est la thématique encore, Marie-Claude Savard, qui est la plus, comment je dirais bien ça, la plus sensible?
c'est drôle à dire parce que quand on était les sujets comme ça, on se dit probablement que l'homosexualité, ça doit être très sensible. Ça l'est, mais pour d'autres raisons. Je pense que c'est l'argent qui est au cœur de tout ça. Puis j'ai l'impression que c'est la dynamique aussi avec l'argent qui explique en grande partie pourquoi, par exemple, un joueur vedette de la Ligue nationale de hockey aurait de la difficulté à sortir du placard, même en 2020. C'est pas nécessairement parce que le sport est à ce point homophobe. Au contraire, moi, j'ai rencontré des individus qui sont très, très ouverts à la diversité. Maintenant, comment tout ça pourrait fonctionner dans un vestiaire? Puis surtout, quelle serait la pression économique pour un joueur? Puis quel serait le risque aussi de perdre une carrière, pas nécessairement à cause des mentalités, mais peut-être parce que ça créerait une distraction dans le vestiaire, ça mettrait énormément de pression sur une organisation, ça pourrait faire dérailler une équipe. Mais tout ça, ça revient toujours à l'argent, c'est-à-dire cet intérêt très important du sport de protéger son profit et aussi de faire des profits. Donc, l'argent, ça a été compliqué parce que on nous dit toujours, hey, tel joueur va faire 15 millions par année, mais on en sait peu sur où va cet argent-là, combien il en reste dans les poches, quels sont les véritables revenus des équipes, puis toute cette mécanique-là qui teinte à peu près tout le reste. Là.
Et qui gère l'argent des joueurs aussi? Ça, c'est intéressant.
Oui, puis les agents se sont quand même ouverts, pas pire, avec nous pour nous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Puis heureusement, aujourd'hui, les joueurs sont beaucoup mieux conseillés qu'à l'époque. Parce qu'avant 93, il y a beaucoup de joueurs là, qui n'étaient pas payés à la hauteur de leur talent puis qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations difficiles. Fait que toute cette question-là d'argent-là est extrêmement sensible parce que les gens ne parlent pas ouvertement de ça. Fait que tous les sujets ont été particuliers, mais je pense que le lien commun entre ça, c'est beaucoup cette espèce de relation à l'argent qu'on a dans le sport professionnel.
Moi, j'ai vu le premier épisode sur l'homosexualité au hockey et tu poses une question très clairement en début d'épisode. Pourquoi il n'y a pas un seul joueur assez à l'aise pour révéler son homosexualité? Et là, il y a comme tu sens encore le malaise. La barrière est difficile à briser. Tu as Andrew Shaw qui a déjà eu des propos et qui en parle ouvertement. Tu parles à Max Domi, tu parles à Serge Chavard. Tu vas même parler à Chris Nyland qui dit que lui, écoute, à l'époque où il a joué, à la fin des années 70, début des années 80, oublie ça, là, c'était impensable. Et là, tu parles à Brock McGillis, qui lui aurait pu avoir une carrière dans la... qui est homosexuel et qui aurait pu avoir une carrière dans la Ligue nationale. Alors, mais on sent que c'est encore très sensible.
Oui, mais ça, en fait, c'est que c'est hyper complexe, c'est des zones de gris, puis c'est pas un sujet noir ou blanc, là. C'est-à-dire qu'il y a personne qui dit, hey, on veut pas d'homosexuels avoués dans le hockey, mais en même temps, c'est très difficile pour un homme, en fait, tu sais, on a parlé à David Testo. Oui, mais David Testo, le gars de l'Impact qui a fait son coming out, nous expliquait les mécanismes. Lui, ce qu'il dit, c'est, ça a été extrêmement humainement difficile et ça m'a coûté ma carrière de faire ma sortie du placard parce que c'est pas tout le monde qui était à l'aise de voyager avec moi, de co-chambrer avec moi. Parce que les joueurs viennent de différentes cultures, tu sais. Puis si nous au Québec on intègre ça, ça fait partie de nos mœurs. C'est peut-être pas le cas nécessairement. Je pense au hockey, à des joueurs qui viennent de la Russie. Puis si tu te retrouves un peu marginalisé dans un sport d'équipe, ben ça va avoir une incidence sur tes performances. Puis si humainement tu sens qu'il y a des gens, tu sais, qui forment des petits groupes puis qui t'excluent, mais ça devient aussi très difficile. Et à l'inverse, c'est dur de porter un secret. C'est très difficile d'avoir des performances de haut niveau et de jouer à son plein potentiel quand tu caches constamment quelque chose. Oui. Fait que c'est un peu une situation infernale, ce qui fait qu'il y a bien des athlètes de grand talent qui finissent par laisser tomber en se disant « ça va juste être trop compliqué d'une manière comme d'une autre ».
Mais ça va peut-être devenir moins infernal avec tout ce qu'on vit dans le sport professionnel présentement et on parle beaucoup d'inclusion. Éventuellement, ce sera plus accepté par les coéquipiers de ceux qui voudront y aller publiquement pour ça.
Mais ça prend un premier. Je pense que c'est ça que les athlètes hésitent à être le premier, parce que le premier va avoir plus d'attention.
Ben, il y en a eu un dans ce que Yannick a dit, un excellent athlète qui méritait pas qu'on le mette à l'écart de cette façon-là, Colin Kaepernick. Aurait pensé, Marie-Claude Savard, Thérèse, Yannick, qui aurait pensé qu'aujourd'hui, des joueurs même de hockey iraient s'agenouiller en disant merci, Colin Kaepernick.
Oui, absolument. Je pense que, tu sais, mais il a payé cher aussi le fait d'être le premier.
Mais oui.
Et, Donc, c'est ça, là. C'est que les joueurs qui sont en position, peut-être, de faire quelque chose comme ça, regardent le prix à payer, puis se disent, OK, tranquillement, pas vite, ça avance, mais est-ce que c'est moi? Pourquoi moi, je ferais ça? T'sais, pourquoi moi, je m'attirais toute cette attention-là? Puis, c'est des gens qui sacrifient énormément pour se rendre dans les ligues professionnelles, là. Il y a peu d'appelés là-dedans. Puis, tu sais, c'est une période de peut-être 4-5 ans pour faire les revenus d'une vie entière.
Bien sûr.
Donc, pourquoi mettre ça en jeu? Puis je pense que les autres, les sports sont tous très différents. C'est très difficile de comparer, disons, le football américain avec le hockey. C'est une réalité qui n'est pas la même. Mais je pense que éventuellement il y en aura un. Mais moi, j'ai commencé cet épisode-là en me disant, mon Dieu, que ça arrive donc, là, tu sais, on est dû, puis on est en retard. Puis j'ai terminé en me disant, si c'était un ami proche, je pense que j'aurais une discussion ouverte, puis peut-être que la conclusion, ce serait, regarde, attends peut-être à la fin de ta carrière. Ouais.
Alors, Marie-Claude Savard, ouais. On a bien hâte de voir ça. Ça va débuter le jeudi 13 août prochain, à 20h, à Radio-Canada, et c'est bien 4 épisodes.
Beaucoup de belles rencontres, notamment avec Mike Ribeiro qui s'est assis avec nous pour parler consommation, Michel Pius qui est revenu sur ses années avec Patrick Roy, tout cet épisode sur l'homosexualité, c'est une belle fierté, je suis très très fière d'avoir fait ce processus-là, puis d'en arriver à présenter cette série-là.
Merci Marie-Claude Savard.
Merci beaucoup Marie-Claude.
Merci Marie-Claude.